soir.
Bip Radio.
Just what is it that you want to do? We want to be free. Do what we want to do.
Sur Radio Panique.
We want to have a good time. That's what we're gonna do. We're gonna have a good time.
Bip Radio.
Radio. Aujourd'hui, je suis un peu seul. Mon collègue, il est pas là. Mais bon, ça veut pas dire qu'on va pas faire l'émission. Donc, comme d'habitude, dans le bocal, il y a Raph.
Bonjour, bonjour.
Donc, avec nous, on a Gate, la salle de consommation à moindre risque, parce que salle de shoot, ça se dit pas trop.
Ouais, pas trop.
Présentez-vous et un peu votre
Donc, moi, c'est tâche. Je suis éducateur, donc au sein de la salle de consommation à moindre risque.
Moi, je suis une usagère de Gate.
Et moi, Mina, éducatrice spécialisée à la salle de consommation.
Mais en fait, j'ai rien entendu, en fait. Non, mais là, c'est bon. Hein. Donc,
ça commence bien, c'est parfait.
Ouais. Non, mais j'ai rien entendu, en fait. Donc, c'est quoi exactement la salle de consommation moindre risque? Mais c'est quoi exactement?
Alors Gate, c'est une salle de consommation à moindre risque où les personnes peuvent venir consommer sur place, mais en fait on n'aime pas du tout employer le mot salle de shoot, parce que justement en fait on n'est pas uniquement une salle de consommation, il y a aussi des services de consultation, infirmiers, assistante sociale et un médecin, et donc en fait l'idée c'est que les personnes puissent venir pour d'une part avoir un point d'accroche et créer du lien, mais aussi remettre en place un parcours de soins.
Et c'est quoi un peu l'historique des Gate? Parce que je crois que ça n'a pas dû être facile de commencer une salle de consommation.
Donc je pense que tout a commencé en 2018. C'était assez compliqué. Évidemment avec les politiques, il fallait aussi avoir les fonds, donc tous les subsides, puis trouver aussi évidemment l'emplacement, enfin donc l'immeuble, le quartier. Enfin, par exemple... Là maintenant, on est statué à l'Aumônier, donc c'est un point où il y a quand même pas mal de zones de deal.
De consommation aussi en rue. Et en fait, c'est vrai que on nous a souvent posé la question pourquoi une salle de consommation maintenant, alors que finalement la consommation existe depuis bien longtemps. Mais c'est vrai que les scènes de consommation sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années. Et pas pour dire que le fléau du crack n'existait pas, mais en tout cas, il est de plus en plus visible. Et donc, il y a des fonds qui ont été libérés. Pour ce projet, et donc voilà.
Et on consomme comment là-bas? Qu'est-ce que sont les façons de consommer chez vous?
Donc on a deux modes de consommation, donc qui est l'inhalation et l'injection. On accepte aussi le sniff, mais il faut qu'il soit lié aux deux premières modes de consommation.
En fait, par exemple, les personnes qui sont, le public cible de la salle, c'est des jeunes, pas des jeunes, que des majeurs. En fait, il faut que la personne ait au moins 18 ans et une problématique au niveau de sa consommation. C'est-à-dire que toute consommation n'est pas autorisée au sein de la salle. Et donc, c'est pour la plupart une consommation d'héroïne, de crack ou bien de médicaments, mais de façon abusive. Et donc, voilà.
Et comment on contrôle? Si maintenant, moi je suis ancien toxicomane, mais si maintenant je me suis jamais shooté de ma vie et je me dis, bon, je vais essayer là-bas, comment ça se passe? Parce que moi je peux te mentir quand je rentre, je peux dire, ouais, ça fait des années que je le fais.
Ouais, mais voilà, nous, par exemple, on a été formés, on a eu pas mal de littérature et en fait, on fait un entretien d'inclusion. Donc avec des questions, on apprend à connaître la personne évidemment, et par ce parcours-là. On arrive à statuer si la personne fait partie du public ou non. Mmh. Maintenant, évidemment, tu peux toujours essayer de nous flouer, hein, mais on n'est pas parfait. Mais bon.
Donc, toi, Marie, tu y vas.
Oui.
Ça t'apporte quoi?
Moi, je ne consomme pas là-bas. J'ai jamais consommé là-bas.
Ok.
Donc.
Miguel. Miguel vient d'arriver.
Putain de pute, quoi.
T'inquiète. Oui, Marie.
Pas de soucis. Donc moi, je ne consomme pas là-bas. Moi, j'ai été amenée là-bas pour voir le médecin.
Okay.
En fait, ce médecin, je le vois ailleurs, dans un autre centre. Et donc, j'avais un problème assez urgent. Donc, elle m'a demandé de venir à Gate. Et donc je suis arrivée là-bas juste pour des soins médicaux à la base. Après j'ai été orientée vers l'infirmière. J'ai aussi vu l'assistant social. Et quand je vais là, j'ai jamais consommé. Je suis même pas inscrite à la salle de conso. Donc ça m'intéresse pas de consommer là-bas du tout.
Ok, et tu peux nous dire pourquoi ça t'intéresse ?
Parce que je consomme dans un lieu privé avec mon compagnon. Et, voilà.
Okay.
Et lui il vient pas là-bas. Donc
en fait ça t'apporte.
Moi, ça m'apporte
oui,
beaucoup.
Ça t'apporte
non,
beaucoup
ça m'apporte beaucoup de choses, mais point de vue consommation, non.
Okay.
Voilà. C'est pas ça que je viens chercher là-bas. Donc, mais c'est un point d'accroche, effectivement, des contacts, des liens, autant avec les professionnels qu'avec les usagers. Et donc, voilà, on est peu de femmes en général dans ces
institutions. Oui, on a si peu de femmes qui en parlent ouvertement aussi.
Donc,
merci déjà.
Avec plaisir. Donc, voilà. Donc, comme ça, je peux rencontrer d'autres femmes aussi. Ça fait plaisir en général qu'elles aient
travaillé. Ouais, c'est vrai que c'est
cool.
Voilà. Bon, Hugo, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, je trouve ça aussi chouette qu'elle met ça en avant, en fait, qu'on n'est pas qu'une salle de conso. Et comme elle le dit, en fait, l'accroche du soin est super primordiale. Donc, en fait, tu peux même venir te poser, boire un café, parler avec nous de.
Oui, parce que j'aurais pu ne plus revenir après mes soins.
Donc, oui, voilà.
Et je continue à venir. Parfois, voilà, quand j'arrive à l'accueil au comptoir, ils me disent tu viens de poser. Ils savent que je viens pas consommer. Je viens juste me poser une demi-heure, une heure, deux heures. J'emprunte des livres. Voilà, on vient boire un café, un thé, manger quelque chose. Et donc voilà, juste pour le plaisir d'être à l'abri avec des gens qui ne jugent pas. Et entre nous, et donc.
C'est vrai que c'est important le non-jugement.
Ça c'est c'est la base.
Mina, tu voulais dire quelque chose?
Oui, aussi c'est vrai que on est une salle de consommation avec des consultations, mais aussi on a un comptoir d'échange. Mm-hmm. Donc les personnes qui viennent consommer à l'intérieur du bâtiment doivent prendre notre matériel stérile à nous, mais et quand elles ressortent à l'accueil, ils peuvent faire un comptoir comme on peut faire dans d'autres institutions.
Donc du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le RDR?
Oui. Alors, est-ce que tu veux que je sois un peu dans l'histoire ou juste vite fait en quelques mots?
Fais comme tu le sens.
Ok, ça va.
RDR, ça veut dire réduction des risques.
Tout à fait. Voilà. Ça va. Un bon élève.
Mais ça va. Je suis au courant, mais je peux le demander, non?
C'est pas pour ça que je le dis.
Ça y est, tu arrives, tu me fous dans la cacahuète. Pas dire dans la merde, quoi.
Mais du coup, pour la réduction des risques, c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui est né il y a bien longtemps, dans les années 80, avec les épidémies de sida, d'hépatite C, etc. Et donc, en fait, ça a été aussi un plaidoyer pour laquelle la salle a été ouverte. C'est qu'en fait, il y a le réseau hépatite C qui, en fait, a pour objectif d'éradiquer l'hépatite C d'ici 2030. Et donc, c'est pour ça que c'est un de nos objectifs principaux aussi, c'est de faire beaucoup de trottes par rapport à ça. Donc, on teste les personnes et on peut aussi orienter vers les réseaux de soins. Et donc, la réduction des risques, en fait, c'est être face à des personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, en fait, arrêter de consommer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on ferme les yeux et on continue à prôner l'abstinence? Ou bien, est-ce qu'on est dans une autre démarche? Et nous, en tout cas, on a pris le prisme de la réduction des risques et d'être dans l'accompagnement de la personne et de prendre la personne dans sa globalité. Et en fait, ce qui est assez chouette à Gate, c'est que les personnes, elles peuvent être là en tant que consommateurs, mais on n'a pas que des discussions vis-à-vis de la consommation. Mais en tout cas, s'il y a des problèmes liés à la consommation, que ce soit des problèmes de soins, mais aussi d'insertion, des choses comme ça, on peut en parler librement. Et donc, c'est en fait de réduire les risques. Et souvent, on nous pose la question par rapport à la salle de consommation. On est avec des gens qui s'injectent, par exemple, de façon où nous, on trouve ça pas... dans RDR, on va dire, mais finalement, on part de la consommation des personnes qui peuvent être à risque vers une consommation à moindre risque. Donc, si c'est mettre, désinfecter un point ou quoi, et après, c'est être au rythme de la personne.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Exactement.
Waouh, on commence avec les clichés et tout ça, c'est pas mal ça. Donc, je sais pas si c'est toi qui as fait le podcast là.
Quoi?
Le petit podcast qu'on va mettre là sur les usagers qui parlent sur la façon d'utiliser.
Non, en fait, c'est alors justement ce qui a été fait par Gay.
Ouais, comment il était fait cet enregistrement?
Du coup, on a proposé à nos usagers, s'il y en a qui étaient chauds, de pouvoir en fait faire entendre leur voix, parce que moi je trouve ça super intéressant, c'est qu'on fasse, grâce à vous aussi, grâce à Radio Panique, qu'on entend les voix des usagers, parce que je trouve qu'ils sont un peu trop mis à l'écart par rapport à la société de maintenant. Et donc, en fait, on leur a proposé simplement avec quelques petites questions par rapport à ces bateaux, mais de pouvoir les entendre. Et donc, on a eu trois personnes qui étaient chauds. Oui. Et donc, voilà.
Ben voilà, si Raph est prêt,
Oui, oui.
Je bah voilà. Bah on va écouter ça alors.
On va le passer en deux fois. Hein. Normalement, c'est 10 minutes. On le passera un premier 5 minutes et après un autre truc.
Ouais. Oui, chef.
Ok, c'est parti. Non, hein.
Bah, c'est pas cher.
On va écouter les usages de diète.
Ouais.
Compositeur, auteur, producteur avec ma musique. J'ai 31 cette année. En fait, je suis dans un centre d'hébergement pour avoir un logement et budget. Ici à Guette, je viens pour parler un peu aux activités qui sont Guette et je préfère parler un peu aux membres de l'équipe au Guette. Et ma décision est de ne pas être isolé, de faire ma conso, mais avoir la conso et de parler comme maintenant. En fait, je me sens protégé à Guette que dehors parce que
je m'appelle Mohamed. Je suis tunisien, j'ai 43 ans. Ça fait du bien ici. Ça va, j'y repose. J'aime bien, j'y prends la coque ici.
Je me présente, je m'appelle Sabas Christophoridis. J'habite à Bruxelles, à Ixelles, j'ai mon propre appartement. Gate, c'est un centre de réduction de risque de base, mais qui a beaucoup de parties de différentes, on va dire. Il y a beaucoup d'éléments différents à Gate. Les personnes qui travaillent là-bas ont des rôles différents, mais sont toujours à l'écoute. Ils peuvent t'aider. Par exemple, moi, j'ai eu dans le côté de consommation, j'ai eu une réaction allergique pendant ma consommation. Emma, qui est infirmière, m'a aidé à nettoyer toute la table pleine de sang et tout ça. Emma m'a pris ma température, elle a monté à 40 degrés. Après, je suis allé voir Marie, qui m'a donné du loratidine. Ça, c'était mon expérience à moi, mais j'ai déjà entendu parler d'autres cas similaires, pas d'allergie, mais de malaise, etc. Mais ça, je ne sais pas si c'était à la consommation à l'intérieur ou à l'extérieur, mais je sais que l'équipe les a sauvés. Ils ont aussi des éducateurs, ils ont des assistants sociaux, et qui peuvent nous aider avec plusieurs tâches, comme par exemple appeler, faire des téléphones avec Partenamu, les assurances, les hôpitaux pour les cures, organiser des projets. Il y a même des cours d'art qui se passent en bas. Je vois, il y a des jeux pour distraire les consommateurs qui rentrent dans un délire des fois, hein, qui est normal parce que comme moi que je suis consommateur, je bade, ça veut dire je rentre dans une loupe et qui me fait des sentiments négatifs. C'est un peu bizarre. Après, on se demande pourquoi on consomme alors. Mais c'est lié à plusieurs facteurs. Mais voilà, avec ces jeux-là et la distraction que l'équipe provide, qui donne, ça aide les consommateurs aussi à les rassurer encore plus. Bah aujourd'hui, je suis venu pour plusieurs raisons. De un, c'était pour consommer. C'est un endroit où je me sens plus à l'aise que de chez moi, parce que il y a une équipe ici que on peut socialiser avec. Je suis venu aussi pour le prévenir que ma cure a été avancée beaucoup, énormément. On m'avait dit 22 mai. Pour le premier, et j'étais sixième dans la liste, du coup, j'avais calculé fin d'été, et j'ai appris que c'est le 23 mars que je vais pouvoir rentrer à Brugmann pour ma cure.
En fait, j'ai consommé dans la rue avec des grands montants. Les problèmes, c'est pour les vapeurs et tout, que les gens sentent l'odeur, qui viennent toquer chez toi à la maison. C'est Centre Dune, comptoir local à Hôtel des Monnaies, les clips qui m'ont envoyé au Gate ici, comme maintenant. Et je préfère Gate que de consommer à la maison, chez des amis ou bien chez moi aussi, j'ai déjà fait.
Avant, je consomme en cachette, moi. Le plus en cachette. Mais avant, quand j'étais allé, j'étais chez quelqu'un. Et j'étais tout seul. T'as vu le parking à côté de la gare du Nord?
Ouais.
Ah oui?
Ouais, mais il n'y a personne là-bas dans le parking. Et j'étais tout seul consommé. Et vers minuit ou une heure, j'ai consommé avec un Marocain aussi. Mais après, je n'ai pas consommé. Mais on a consommé dans la station de métro de Roger. Mm-hmm. Mais il n'y a personne dans l'escalier. Mais il n'y a personne, il n'y a plus personne. À minuit 30 ou minuit.
Je consomme hashish, l'herbe et cocaïne. Les moments que j'ai commencé, j'étais enfermé au centre à fait d'asile 2007-2008. Et j'ai commencé à fumer la cocaïne en 2008. Avant, je peux dire quoi, je connaissais une femme qui prépare avec bicarbonate et j'ai préparé avec l'ammoniac et maintenant au guet, bicarbonate, ça me paraît bien aussi. J'ai découvert qu'avec bicarbonate, mais on m'a déjà parlé de ça.
La coque.
Oui, donc voilà, on est de retour. Donc je crois que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc on a avec nous Nico, coordinateur de Gate, qu'on va inviter maintenant avec nous, parce qu'il se cache en fait. En fait, c'est l'inspecteur des travaux finis, mais on va le faire travailler un peu. Donc Nico.
Ouais, bonjour Nico.
Bonjour Nico, donc tu es coordinateur à Gate. Donc maintenant, ça fait environ un an que ça existe.
Ouais, bon anniversaire Gate.
Ouais, ouais. Merci. Ouais. Merci.
Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan
sur la première année de fonctionnement?
Ouais.
Donc ça fait un peu plus d'un an qu'on est ouvert, qu'on a ouvert l'espace de consommation. Et sur cette première année, on a eu l'occasion d'accueillir un peu plus de 900 personnes, donc 911 personnes différentes. Et on est passé donc, dans les premiers jours d'ouverture à 1, 2, 3, 4 passages par jour à 120, 150 passages sur la journée. Et donc les gens qui poussent la porte d'entrée de Gate, c'est pas que pour la consommation. Donc c'est le service qui est le plus mobilisé par nos bénéficiaires. Mais il y a aussi tout un volet psychosocial, d'accueil. Et donc on veut vraiment avoir une approche un peu transdisciplinaire où au final la consommation peut être un prétexte pour passer la porte d'entrée. Et dès que les personnes sont dans le dispositif, on se saisit de cette occasion pour leur proposer toute une série de prises en charge. Et on le disait tout à l'heure, hein, ça passe de l'accueil à un entretien avec un assistant social, infirmier, médecin. Et donc on essaie de proposer une intervention psychosociale, mais c'est pas une obligation. Donc c'est pas une obligation quand on pousse la porte d'entrée de voir un assistant social ou un intervenant.
Oui, c'est un travail de longue haleine, quoi. C'est
ouais, c'est ça, c'est le travail de lien.
Ben, c'est cool.
Oui, je me demandais aussi s'il n'y avait pas un certain retour de la part des usagers, genre, est-ce que les horaires sont adéquats, est-ce que... voilà, des trucs comme ça. Il y a quand même déjà des retours, si l'équipe est pluridisciplinaire, mais est-ce qu'il y a... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un psy, des trucs comme ça, quoi.
Ben, le premier tour qu'on voit, c'est qu'au final, il y a quand même toute une série de gens qui reviennent. Donc, c'est qu'à un moment donné, ça fonctionne. On voit aussi que les personnes nous orientent d'autres bénéficiaires. Donc, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le plus. Donc, on voit bien que pour certaines personnes, il y a une plus-value. Maintenant, on voit aussi que au niveau du retour qu'on peut avoir des bénéficiaires, c'est quelque chose qu'on doit aussi pouvoir organiser et donner. On parlait justement de la parole aux premiers concernés au final. Et donc l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné faire un moment d'arrêt avec nos différents bénéficiaires pour s'inquiéter de la qualité de l'accueil, l'adéquation des services, du dispositif à leurs besoins. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette attention-là pour rester on va dire, souple et mobile dans la création des premiers instants de ce dispositif. Donc on a vraiment cette attention, et ça c'est aussi une attention qui est là au quotidien par nos travailleurs de première ligne qui font vraiment qui investissent beaucoup d'énergie à pouvoir rester dans du cas par cas malgré une fréquentation relativement importante du bénéficie. Donc on a vraiment cette envie-là de pouvoir maintenir cet axe de communication.
Et tu vois quoi, qu'il y a plus de personnes qui sont en rue, en appartement ou en squat? C'est quoi le public en fait? C'est vraiment divers? Il y a pas de, ou c'est vraiment que des gens qui vivent en squat ou que ceux qui sont en appartement? Ou
avoir un acquis au niveau du logement, c'est pas une condition ou un frein que pour pouvoir fréquenter le dispositif. Donc les personnes qui ont un logement peuvent fréquenter le dispositif, comme en témoignait tout à l'heure lors du podcast un de nos bénéficiaires. Maintenant, on voit bien que la majorité, donc c'est plus de la moitié des personnes qui fréquentent le dispositif, vivent en rue, en squat, et d'autres ont des solutions alternatives, sont chez des familles amies, sont dans des structures d'accueil de jour ou de nuit. Et donc on est dans un public qui est relativement fragilisé, enfin pas relativement, qui est tout à fait fragilisé par rapport à leur situation de vie.
Et comment ça se passe avec le voisinage?
Alors, avec le voisinage, donc il y a eu beaucoup de craintes au début. Donc on a fait en amont de l'ouverture des séances d'information pour sensibiliser le voisinage, les voisins à l'ouverture. On a fait tout un travail avec nos éducateurs de rue, de prospection, de prise de contact avec les commerçants, les riverains, avec les pharmacies, les structures d'accueil pour annoncer notre arrivée et dire qu'on était disponible aux besoins. Et depuis qu'on a ouvert le dispositif, en un an, donc on a fait 3 séances d'information. Donc c'est une obligation qu'on a de maintenir aussi le contact avec le riverain. Et on voit qu'au fur et à mesure des rencontres riverains, il y a de moins en moins de personnes qui fréquentent le dispositif, les soirées d'information. Et donc, en fait, on se rend compte que là où au début, il y avait beaucoup de craintes, ces craintes, à un moment donné, ils voient que ça ne change pas drastiquement leur quotidien, que la situation ne s'empire pas. Et la plus-value qu'on a au quotidien, c'est que pour chaque personne qui vient fréquenter la salle, on pose la question, si on avait été fermé, est-ce que tu aurais consommé dans l'espace public? Et dans 80% des cas, les gens disent oui, si vous aviez été fermé, j'aurais fumé ou j'aurais injecté dans l'espace public. Et donc ça, c'est aussi la plus-value qu'on a par rapport au quartier.
Donc en fait, il y avait un réel besoin d'une salle de consommation à moindre risque.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on s'est implémenté dans ce quartier-là. C'est qu'on est au milieu de différentes scènes de consommation, de scènes de vente. Et cette proximité, elle est importante. Donc, c'était déjà un phénomène, c'était déjà une problématique, on va dire, dans ce quartier-là. C'est historique. Et donc, le fait qu'on s'implémente en tant que salle de consommation dans ce quartier, c'est pas pour rien. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment drainer les personnes jusque dans notre dispositif. Et dès qu'ils sont ici, pour pouvoir proposer un accueil de jour, une prise en charge, une orientation.
Et là, c'est un peu une question pour tout le monde en fait. Comment vous vous battez contre le fait qu'on dit que c'est un peu de l'incitation? Waouh.
C'est vrai qu'il faudrait être...
Oh, le silence.
Non mais gay, c'est aussi un peu à double tranchant dans le sens que c'est incitatif, un truc du genre,
oui.
Quoi.
Non.
Après tout, il y a...
Moi, je dirais non.
Non, oui, mais bon, voilà.
On pousse pas les usagers à consommer, on donne pas la seringue.
Les usagers consommeraient, que gay soit là ou pas, ils consommeraient de toute façon.
C'est vraiment... Oui, non, ça c'est sûr, mais on va dire que moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui me disent, ouais, mais après, le niveau de deal, il doit être augmenté, il y a des... Voilà, il y a toujours des gens qui vont être contre la salle, quoi.
Ouais, non, bien sûr, de toute façon, on aura toujours des détracteurs, on aura toujours des gens qui vont diaboliser le projet. Après, ça reste toujours un projet assez touchy, enfin, qui vient seulement d'émerger. Et après, je pense qu'on a eu des études pour montrer qu'en fait, le quartier n'a pas changé d'impulse. Enfin, il y a toujours eu autant Enfin, en fait, on a des retours de la police qui a eu aucun... Enfin, il n'y a pas plus d'arrestations ou moins d'arrestations par rapport au deal.
Donc, et puis en plus, surtout que quand... on parlait des éducateurs de rue qui ont fait de la médiation locale, il se trouve que quand ils ont parlé avec les commerçants, en fait, les personnes disent qu'il n'y a rien qui a changé. Donc dans d'autres projets, ça pourrait être négatif, mais pour nous, en fait, c'est plutôt positif parce que si rien ne change, ça veut dire que finalement, il n'y a pas...
C'est que ça ne gêne pas, quoi.
C'est que ça ne gêne pas et qu'en fait, finalement, même s'il y a effectivement du deal qui s'est peut-être un peu plus rapproché, finalement, le deal était déjà existant dans le quartier et les scènes de consommation ouvertes également. Donc finalement, c'est pas vraiment... un point qui nous inquiète. Et pour le début de la question, j'ai pas entendu parce que j'étais.
C'était quoi le début de la question ?
C'était par rapport à l'incitation à la consommation, en fait, finalement.
Ah oui, voilà, l'incitation à la consommation.
Comme on fait un entretien d'inclusion, à chaque fois que les personnes entrent pour accéder au dispositif et pour accéder à l'espace de consommation, il faut faire un entretien d'inclusion où on a vraiment une discussion avec la personne. Et si on voit que la personne n'a pas du tout des consommations abusives et problématiques, c'est déjà arrivé, où des personnes venaient uniquement parce que ils avaient une consommation en sniff ou festive.
Ouais, voilà.
C'est comme par exemple à Liège, les personnes nous ont raconté que à la salle de consommation de Liège, il y a des personnes qui étaient venues avec une demande de prise de MDMA en Perros, donc du coup de façon orale. Et donc là, c'était pas du tout envisageable. Et donc,
c'est pas le projet,
bien entendu,
quoi.
C'est des choses qui peuvent être entendues, mais nous, on voit au quotidien, comme disait Marie, les personnes, elles consomment et en fait, elles consommeraient même si on était fermé. Mais moi, je voulais juste revenir sur, parce que Nicolas, il disait par rapport à l'équipe pluridisciplinaire qu'on avait.
Oui,
et nous,
on dit bonjour à tout le monde.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Bonjour à tous.
Et du coup, bonjour à la direction aussi.
Voilà. Et, donc,
je suis sûr qu'ils nous écoutent.
Et donc, en fait, nous, on avait constaté, peut-être que Marie peut le dire ou pas, avec l'équipe, on se disait que finalement, c'est vrai qu'on n'a pas de permanence psy à la salle. Et c'est vrai que ça peut être, on parlait de si on pouvait améliorer quelque chose ou quoi, ça peut-être être un manquement, parce que même s'il y a beaucoup d'écoute et d'accompagnement à la salle, et ça, l'équipe est vraiment géniale par rapport à ça, peut-être d'avoir une permanence psy, je sais pas, une fois par semaine ou quelques fois par semaine, je ne sais pas comment ça pourrait
être. Je pense que ce serait quand même une plus-value.
Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, ce serait une plus-value. Maintenant, moi, je n'en ressens pas le besoin parce que chaque intervenant là-bas a une capacité d'écoute, franchement, que j'ai pas rencontrée dans beaucoup d'endroits. Et même si on n'est pas venu depuis une semaine, ils se souviennent de ce qu'on aura dit la semaine passée. C'est vraiment, ils font du cas par cas et dans le traitement de la personne, mais aussi dans le traitement d'informations qu'on leur donne. Donc voilà. Mais clairement, oui, c'est une plus-value partout. Hein.
Oui, c'est sûr.
Une intervenant psy, même une permanence, ne fût-ce qu'un après-midi par semaine ou.
Que des compliments là.
un peu trop.
On va plus parler.
Je pense aussi que d'avoir un psy, ça fait aussi partie des réductions des risques.
Oui, absolument.
Et bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes en face de la main.
Oui,
tout à fait.
Oui.
Donc voilà, ce qui est aussi, je pense qu'il faut aussi orienter vers.
Oui, et puis en plus, il y a l'équipe Tremplin, peut-être que tu peux expliquer, Hugo.
Oui, voilà. En fait, donc on a l'équipe Tremplin qui fait partie aussi de Gate, en fait, et qui est une coopération avec la masse. Et en fait, c'est un peu le lien qu'on a avec tout le système de prise de rendez-vous et de. J'ai oublié le mot.
C'est pas moi qui vais t'aider, hein.
Réseau.
Oui, par rapport au réseau, par rapport
orientation.
Oui,
on fait un quiz. Orientation.
Ah là, ça devient.
Ah, c'était parti. Mais par rapport, en fait, à la. Allez, on a le médecin qui fait partie de Tremplin. On a un assistant social qui vient.
Oui, en fait, on a trois cabinets et en fait, c'est que sans rendez-vous.
Ouais, voilà.
Et donc, les personnes peuvent venir quand elles le souhaitent.
Ouais.
Et après, en fait, l'idée du tremplin, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, c'est pour faire un tremplin vers le soin.
Voilà.
Et en gros, bien trouvé. Et en gros, bien entendu, c'est pour aller vers la masse s'il y a des prises de rendez-vous avec des médecins, etc., pour des suivis plus périn, mais par contre ça peut être aussi avec le reste du réseau, donc avec des services de santé mentale, des services d'aide au logement, c'est pas du tout uniquement dans le médical, c'est aussi pour la reprise de parcours de soins dans le socio-administratif.
C'est vrai que Gate, c'est un bon lieu pour se donner des rendez-vous, parce que
oui. c'est vrai qu'avec le réseau, par exemple avec Diogène, ça arrive aussi régulièrement.
C'est vrai qu'ils peuvent téléphoner là-bas, je trouve ça quand même assez cool, quoi.
Parce que justement, toi Mario, qui y vas souvent. Rappelons que Mario travaille chez Diogène.
Au niveau boulot.
Au niveau boulot, justement.
La première fois que je suis allé à Gate, on m'a quand même demandé si c'était la première fois que je venais.
Ah oui,
moi, je trouvais ça marrant.
Ben ouais, c'est
marrant.
Moi aussi, j'ai gardé l'image du type de la sécurité.
Ah ouais.
Ah mais oui. Mais d'ailleurs, on peut en parler si si vous voulez.
On peut parler tout à fait de notre agent de sécurité.
Oui,
pourquoi de médiation, on peut plus l'appeler parce que franchement, il est.
C'est quoi un agent de sécurité?
Mais chez nous, on préfère dire agent de médiation parce qu'en fait, finalement.
Oui, après, c'est vrai qu'ils sont cool. Hein.
Il est hyper cool. Il a un trop bon lien avec le public.
Il a un travail de vraiment. Oui, de médiateur, de tampon, j'allais dire, entre les usagers et les intervenants. Il est souvent en salle de repos. Donc voilà, il voit quand ça commence à monter un petit peu. Oui. Et un regard, une parole, et ça, il calme les gens. Mais tellement gentiment. On n'a pas envie d'avoir des problèmes avec lui. Il est tellement gentil et ça. Mais non, c'est vrai. Il le sait. Je lui ai déjà dit. Et je suis pas la seule à lui avoir dit. Donc
tout le monde a un très bon lien.
Oui, avec lui. Absolument. Fille, garçon, n'importe quel âge. Ouais.
Il est grand aussi.
Oui, c'est vrai.
Il est grand, il est beau. Hein.
Je pense que il est normal que dans ce type de public, il peut y avoir des fois
Des petits frottements. Quoi.
Mais c'est vrai qu'il a gagné quand même un certain respect des personnes parce que parfois on a des situations qui peuvent être assez complexes et dès l'accueil, et en fait, il va être toujours très doux et en fait, au lieu de répondre par l'agressivité, la façon dont il gère la situation fait que la situation s'apaise directement. Et idem pour les femmes qui viennent consommer. Parfois, c'est pas évident pour une femme de pousser la porte.
Mais il y a deux jours, j'étais à l'accueil et il y a un autre consommateur qui a eu un geste déplacé envers moi, rien de grave. Donc il y a l'intervenant Simon qui est intervenu, mais voilà, l'agent de sécurité aussi est intervenu directement. Juste une phrase. Et c'était fini, il s'est excusé, voilà, donc il laisse pas monter ça trop, quoi.
Mais c'est sûr, et puis si par exemple les femmes elles se sentent mal à l'aise dès l'accueil et qu'elles osent pas trop aller en consommation toutes seules, parfois il arrive souvent qu'ils fassent le chemin en fait du parcours patient avec les personnes, et donc du coup par exemple pour aller vers la consultation ou bien pour aller vers l'espace de consommation, et donc c'est quand même un certain atout qu'on a nous ici.
Allô. Ah bah, je suis en train de prendre des photos cette fois-ci.
Non mais je pensais aux femmes, parce que bon, c'est pas évident pour les personnes qui s'injectent de. Enfin parfois, par moment, l'endroit où on l'injecte est assez privé.
Oui, comment on doit se représenter une journée? Bon, je pousse la porte, d'accord. J'ai fait mon entretien, après ça se passe comment?
Bah déjà, tu passes la porte.
C'est déjà bien de passer
la porte. Il y a votre porte que je trouve quand même assez gentille. Parce que
à chaque fois.
Voilà. Elle est très gentille, cette porte. Tu sonnes et la porte est ouverte.
La porte, en fait, parle aux gens avant. Ouais. C'est pour les mettre en.
C'est le premier accueil, c'est la porte, quoi. Mais après, ça se passe comment? Donc, je fais mon premier entretien. Bon, je suis usager depuis. Après, ça se passe comment?
En fait, donc voilà, on t'invite à passer dans un bureau, comme ça, au moins, c'est un peu plus intime. Et on va te poser quelques questions pour savoir ta consommation, pour savoir un peu... Il faut savoir aussi que chez nous, tout est anonyme, tout est gratuit. Il ne faut pas l'oublier, en fait, qu'on demande des informations assez personnelles, mais c'est juste pour savoir qui est la personne en face de nous et bien savoir que c'est une personne consommatrice de drogue. Et après, nous, on peut voir ton besoin, t'accueillir. Après, si tu as envie de consommer aujourd'hui ou pas, en fait, ça, c'est pas notre point. En fait, tu n'es pas obligé de consommer le premier jour que tu viens. Tu peux juste un peu tâter le terrain, voir si l'ambiance te scie ou pas. Et après, en fait, on te propose un peu tous les panels de Gate.
Et je reste combien de temps?
Eh bien, en fait, justement, en fait, lors de cet entretien d'inclusion, on explique bien que c'est important, il y a quelques règles à respecter, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est juste que l'ammoniac est interdit dans le bâtiment. Mmh. Et donc, les travailleurs ont appris à... C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais...
Oui, c'est bizarre, je te confirme.
Les travailleurs ont appris à baser la cocaïne avec le bicarbonate. Et donc, c'est un point aussi de la réduction des risques. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'ammoniac, on fait avec le bicarbonate. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est interdit dans le bâtiment. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça.
Et en fait,
combien de temps tu peux consommer?
Ah oui. Et donc, après, on explique qu'il y a 30 minutes pour consommer dans l'espace de consommation. Et on n'a pas le droit de fumer de cigarette pendant qu'on consomme, mais on peut fumer, il y a une petite cour après. Donc, ça, c'est un truc qui pose. Ouais. Problème ouais, souvent.
Ouais, c'est pour ça que ça fait quand
j'ai
même...
vu les yeux de Marion faire.
Ouais, moi, quand je consommais, le premier truc que tu fais après, c'est fumer une clope.
Mais tu peux faire après.
Je pense aux gens qui inhalent, enfin, l'héros.
Ouais, c'est ça.
Enfin,
ouais.
Moi, je fume mal. Enfin, pas moi. Il y a un truc là. Mais bon, en général, on fume une cigarette en même temps.
Ouais, mais en fait, quand même pas mal. Le retour des usagers disent qu'en fait, c'est une problématique pour eux, mais après. Ils reviennent en fait. Ils arrivent à faire le fait d'attendre.
On s'adapte.
Oui, ils comprennent quoi.
On s'y fait, mais oui.
Parce que voilà, en fait, on reste quand même une institution. On a quand même des règles, même de sécurité ou même de voilà, tout n'est pas permis. C'est pas la fête. C'est pas la fête à la musique, enfin, tu vois.
C'est comme le fait qu'on puisse pas fumer de cannabis à l'intérieur. Parfois, on a des interlocutions. Pourquoi on peut fumer ça et pas ça? Ouais. Et c'est vrai que, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de cannabis à l'intérieur ni d'alcool au sein du bâtiment. Mais c'est vrai qu'il y a une petite cour. Donc, pour la cigarette, en tout cas, c'est direct. La cour est directe après la consommation. Donc.
Ah oui, ok.
Faut attendre encore. Et on parlait de la consommation, ça dure 30 minutes, mais la personne, elle peut refaire le tour, parce que c'est un parcours patient, et donc elle peut revenir autant de fois qu'elle le souhaite dans la journée. Bien entendu, nous, on est là aussi pour faire attention à l'état de la personne, donc on est là pour monitorer, et donc pour postposer les consommations si la personne est trop imbibée ou quoi, quoi.
Et comment ça se passe au niveau des produits ? C'est comme moi, j'ai rien, mais je sais qu'il y a un pote à moi qui est là. Est-ce que je peux lui dire, vas-y, avance-moi un truc
Non, du tout. En fait, chacun vient avec son
propre... Je crois que c'est des questions normales.
Non, c'est super important. En plus, comme ça, nos auditeurs peuvent le savoir.
Non, c'est pas les tiens, c'est les
nôtres. Oui, nos auditeurs. T'es emballé. Ils s'approprient, ça y est. On vous laisse, Hugo, ça y est.
Non, mais moi, je suis bien ici, en fait. Je suis très bien sur ma chaise, avec ce petit micro, c'est parfait. Non, mais pour dire qu'en fait... tu viens avec ton propre produit. Même si tu viens avec ton pote, vous devez faire le partage à l'extérieur.
Okay.
On est vraiment assez touchy par rapport à ça, parce que voilà, sinon après c'est aussi une zone de deal ou une zone de partage. Et
Non, mais je pense aussi, voilà, t'es un pote à moi, t'es en manque, voilà, je te passe vite un truc, ça doit se passer dehors.
Dehors. En fait, nous après, si on n'est pas non plus la Gestapo, mais on peut dire à la personne, alors... vous pouvez aller dehors, vous faire le partage, du moment que c'est pas dans la rue, ni évidemment devant nos voisins, ni devant les
riverains. Mais justement, tu fais ça où alors?
Ah, tu peux faire
ça. Trouve la solution.
Ça, c'est leur secret.
Oui, on s'arrange, mais oui.
Mais non, mais ça, j'en suis sûr. Mais voilà, je trouve que la question devait être posée.
Ah non,
il faut. Surtout que c'est vraiment un truc qu'on explique bien dès l'accueil, parce que finalement, c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui viennent en binôme, et donc ils se disent, on partagera après. Et nous, on prend le pli vraiment à l'accueil, quand on inscrit pour la consommation, de faire attention que chacun ait son produit. Parce que aussi, c'est un truc qui
nous assouffle. Il faut montrer aussi le produit.
Ouais, on doit montrer, si on a de la cocaïne, de l'héroïne, on doit montrer quelle quantité on a. Et puis nous, c'est important aussi de savoir, parce que s'il y a des surdosages, on doit savoir ce que la personne a consommé. Ouais.
Et préparé ou pas déjà.
Exactement, si c'est préparé.
Parce que le bicarbonate est priorisé chez nous, mais si par exemple, tu n'as jamais préparé au bica, tu peux baser à l'extérieur.
Et il y a des gens qui flippent. Hein.
Ah ouais, non, mais bien sûr.
Ah ouais, parce que c'est touchy le dosage.
Il y a des gens qui flippent.
C'est un peu de la chimie, quoi. Mais bon,
c'est sur la police.
Non, mais moi, j'ai montré...
Moi, j'ai pas montré ma marchandise, ça va ou quoi?
Moi, j'ai montré...
Bah non, mais je sais pas.
Ouais, mais après, on est obligé de savoir. Enfin, tu vois, si t'arrives et que tu me dis mais que tu veux pas me montrer, que t'arrives dans une salle de consommation où il y a pas mal de drogue, enfin, tu vois, c'est un peu... Ouais. On est quand même... on est obligé, en fait. C'est un peu notre...
Enfin, c'est la règle, ou par contre c'est obligé, parce que souvent ce qu'on nous dit, c'est moi je préfère fumer ici parce qu'en fait dehors on me gratte toujours dans la rue, et donc du coup on me vole mon produit, du coup je peux pas consommer, j'ai perdu tant d'argent, etc. Et du coup nous on leur assure un cadre sécurisant pour eux et bienveillant. Donc si on est là aussi pour que les personnes viennent sans produit, ou nous on sait pas vérifier qu'ils ont du produit et qu'après ils se font prendre leur produit, ça n'a pas de logique pour ça, quoi.
Bah après on peut comprendre que c'est très intrusif, la première fois, c'est un peu bizarre déjà de montrer son produit et de répondre à autant de questions personnelles.
Parce que moi, lors de l'entretien d'inclusion, j'ai dit que je comptais pas consommer, et ça se vérifie sur la durée. Mais on m'a dit que si je prenais de la cocaïne avec de l'ammoniaque, que c'était interdit l'ammoniaque, mais qu'on pouvait m'apprendre à le faire préparer avec du bicarbonate. Donc voilà.
Ouais.
Moi, une fois, je l'ai fait pour un de mes suivis, et franchement, il a paniqué, quoi.
Ah oui, mais c'est super stressant.
Il panique. Putain, t'es sûr que c'est bien, t'es sûr. C'est normal que ça fait comme ça. Vas-y, mais c'était marrant, parce qu'après, il disait quand même que ça avait un meilleur goût. Tu avais plus le goût du produit.
En fait, le fait de fumer au bicarbonate est super bon pour les bronches.
Mais lui il le faisait parce qu'il avait un truc au poumon, et franchement j'étais un peu obligé de lui dire vas-y fais-le au bicarbonate, parce que sinon...
J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas.
Faut pas oublier
il disait que le goût était... T'avais plus le goût.
C'est produit, souvent, quoi, ce qu'on me dit, ouais.
Par contre, je voudrais spécifier qu'ils n'appellent pas à mieux se défoncer, mais plutôt à défoncer dans...
Plus sécure.
De meilleures conditions.
Ouais, voilà, c'est pas non plus...
C'est vrai que tout à l'heure, je crois qu'on parlait aussi des injections, etc., pour les femmes. Et en fait, il y a donc les personnes qui se sentent par exemple pas à l'aise, parce que c'est vrai que c'est la salle d'injection est vraiment à côté de la salle d'inhalation, mais on a envoyé des photos, donc on pourra peut-être les mettre après. Et en gros, par exemple, il y a une femme qui souhaite s'injecter dans certaines parties, etc., du corps qui nécessiterait d'être dans une infirmerie, c'est possible. Après, on a aussi des points d'injection qui sont interdits chez nous, c'est-à-dire qu'on peut pas injecter dans le cou ni dans les parties intimes, Et donc, par contre, si on a besoin de plus d'intimité, que ce soit une femme ou un garçon, il peut prendre le pli d'aller dans l'infirmerie qui se trouve dans l'espace de consommation et le faire de manière.
Mais après, dès que vous êtes. Après, voilà, moi je suis toujours l'avocat de Liam.
Mais il faut toujours.
Dès que vous êtes dans la cabine, vous ne voyez pas où ils font ça en fait. Vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas contrôler, vous n'êtes pas là à regarder.
Justement, on a toujours un œil quand même. Enfin, c'est
ouais, sécurisant surtout. Un petit œil, je
un
crois.
Le
petit œil de
veille, quoi.
De veille de sécurité.
Bah, c'est ça.
Mais c'est plus par rapport au bad trip ou si le type.
Bah, c'est ça qui m'empêcherait, personnellement, c'est ça qui m'empêcherait d'y aller, en fait. C'est le fait de se sentir regardé.
C'est sûr qu'en fait, on a un œil. Enfin,
mais c'est bienveillant.
Oui,
c'est bienveillant.
Mais après,
oui, non, d'accord, c'est bienveillant, ouais. Mais moi, j'ai toujours fait ça comme un geste très intime.
Oui, ouais, bien sûr.
Mm-hmm. Pour moi, personnellement, non. C'était très intime. Donc, de voir quelqu'un que je connais pas,
ouais.
Savoir que même si c'est un œil bienveillant, c'est un œil, quoi.
Ouais, ouais. Ça reste un œil, en fait.
Donc, je sais pas. Ça moi, personnellement, j'irai pas.
Mais il y a beaucoup de personnes qui renvoient ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui sont venues les premières fois qui finalement il y a des gens qui sont jamais revenus parce que ça ne leur convient pas. Et il y a des personnes aussi qui justement pensaient que ça n'allait pas du tout marcher pour eux et finalement ils ont appris par exemple à trouver des veines qui pouvaient plus utiliser, etc.
Qui n'existaient plus.
Ouais, voilà, ouais, c'est mais ça. C'est vrai et parfois du coup c'est un peu du cas par cas. En fait, ce projet, il marche vraiment au cas par cas.
Mais ils reviennent aussi parce qu'il y a d'autres.
Oui, je crois pas qu'ils cherchent que ça.
Voilà, il y a d'autres attentes.
Comme tu dis, il y a.
C'est pas que pour consommer, la preuve.
Ouais, voilà.
On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la salle et qui n'ont aucun suivi nulle part. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ils cherchent aussi. Nous, ce qu'on cherche, c'est à créer du lien aussi. Donc, par le biais, peut-être qu'on a pris le biais de la consommation. Mais finalement, c'est un public qui est pour la plupart marginalisé. D'autres qui sont plus intégrés que d'autres. Mais finalement, il manque de lien dans la société et donc on offre juste un endroit où on peut se poser, discuter et partager un moment
café,
ensemble.
Voilà.
Ouais, je peux juste venir boire un café.
Ça, oui, c'est ça, c'est possible.
Juste fumer une clope, venir parler avec nous.
C'est
et
ce que je fais, moi, absolument.
Et voir comment tu sens en fait l'atmosphère et voilà, en fait, on n'oblige jamais personne à rien.
Je sais pas si on a parlé d'activités qu'on faisait.
Ouais.
Parce que justement, il y a des personnes qui viennent pour les activités. On parlait des femmes beaucoup là et en fait, il y a un atelier femmes de 14h à 16h aussi le vendredi.
Qui consiste à. Je sais pas, tricoter.
Pas loin.
Je pense à un atelier qui se fait à Dune qui s'appelle.
Chipote.
Chipote ou tripote. Enfin.
Et là on voit Lola qui part en colère.
Elle est sortie
de la salle. Ah ouais,
elle est partie, Lola, elle est
sortie. Ah, Lola, c'est notre féministe, donc.
Elle, c'est le charrier.
Oh là là.
Il n'y
a pas de tricot du tout. On peut proposer à Jeanne qui s'occupe merveilleusement. Bien de cet atelier, mais c'est juste un endroit pour les femmes où elles peuvent se retrouver, échanger, se maquiller, discuter, prendre une douche, juste un moment où elles sont vraiment, parce qu'il faut pas oublier que les femmes sont, enfin sont, je sais pas comment expliquer, mais beaucoup plus.
Choisis tes mots.
Ouais, la Marie, regarde les mots. Qu'est-ce
que tu as dit ? Ah là, faut choisir tes. Vas-y, continue maintenant.
Ram.
C'est pas comme moi la tâche. Quoi.
Ouais, non, mais le live, faut qu'elle revienne. Donc, je dirais que c'est vraiment un endroit où elles se sentent en sécurité, écoutées, et où elles peuvent revenir tous les vendredis de 14 à 16.
Et c'est que des femmes alors. C'est un moment où il n'y a que des femmes.
Mais ça, c'est pas comme à Dune où il y a une soirée où il y a qui est dédiée uniquement aux femmes. En fait, c'est tout le bâtiment est ouvert à tout le monde, mais il y a un espace dans le bâtiment qui se trouve au dernier étage et qui est un assez grand espace où les femmes en fait peuvent venir se réunir à cet endroit. Mais elles peuvent pas consommer.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, on a déjà demandé que si c'est possible que l'espace de consommation soit ouvert de temps en temps uniquement aux femmes. Et ça, malheureusement, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Peut-être que dans le futur, oui, mais pour l'instant, c'est juste un endroit où on peut se poser, discuter.
C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup.
Et c'est déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent chez nous de plus en plus et en fait qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans la même pièce que quelqu'un qu'elles ont côtoyé. Parfois, ça se passe mal.
Oui, comment faire quand ça se passe mal oui, quand ça se passe vraiment mal en fait, parce que c'est vrai, dans le monde des toxicomanes, il y a quand même des...
Bien sûr, et surtout qu'il y a des femmes qui se retrouvent face à des agresseurs, elles n'ont pas envie, parfois c'est super compliqué à gérer, même pour l'équipe, et donc ça c'est tout un truc sur lequel on travaille nous encore, on a souvent des réunions à des thématiques, et ça
et c'est pour ça qu'on a toujours un petit œil en fait, notre petit œil qui pourrait déranger, mais il faut toujours faire attention que tout se passe bien, et rester à l'écoute en plus.
Et Fouette, qui a un très bon lien avec les femmes aussi, s'occupe.
Fouette, c'est l'agent de sécurité. Ouais.
Donc, en fait, il y avait encore un deuxième morceau. Donc, on va écouter le deuxième morceau de votre petit enregistrement. Donc, Raph, quand tu veux.
Ma consommation a changé, mais je ne sais pas si c'est lié à Gate ou à autre chose, parce que j'ai rencontré Gate. Ils m'ont appris quelques trucs parce que j'avais fait des mauvaises injections par le passé. Et je suis allé en Grèce directement après.
Oui,
et là, j'ai fait des injections, beaucoup, beaucoup d'injections qui sont parties très, très mal. Et là, je me suis rendu compte aussi de la pratique, et de l'établissement et du fait d'éliminer le risque, le moindre risque. Alors, ma consommation a changé, oui, mais... Ça, il y a plusieurs facteurs et je pense pas que Gate a à voir. Je pense que l'espace, parce que Gate devient de plus en plus connu, je vois plus en plus d'utilisateurs. Je pense que l'espace devrait augmenter. Les horaires devraient être plus différents, un peu plus tard dans la journée. Je sais que les gens qui travaillent ici ont une vie personnelle. Du coup, je ne pense pas de 12 heures jusqu'à 8 heures du soir, comme fait Transit, mais avec leur comptoir. Mais au moins une heure de plus. Peut-être aussi. Réaliser que oui, parce que dans la consommation de cocaïne spécifiquement, il faut attendre un certain moment avant de retirer une deuxième taf pour avoir un effet bénéfique. Si on tire taf sur taf, qu'il y a des gens qui font ça, mais personnellement ça ne me va pas. On n'a pas le même rush. Mais si on attend 30 minutes, on dirait que c'est comme on avait fait la première taf de la journée.
Okay.
Alors, augmenter le temps dans les salles, mais parce que la salle est petite et qu'il y a les gens qui attendent, ce sera difficile. Alors, le budget, peut-être augmenter le budget, mais je ne sais pas comment fonctionne le système ici. Du coup, je vais dire de par ça. Le concept de Vancouver où ils donnent les doses d'héroïne basées sur leur taille et tout ça pour éliminer le fentanyl, les benzodopes. Benzodopes, c'est avec des benzodiazépines qui sont des calmants et qui peuvent créer des respirations, des pressions respiratoires.
Ouais.
On n'a pas encore le fentanyl en Belgique. Mais ça peut arriver et il faudrait déjà prendre les pieds pour ça.
Hier, j'ai fumé la coke dans les 10 pipes métal et les pipes d'ici.
Et tu
c'est pas la même. Il faut faire un changement. Voilà. Mais il y a beaucoup de changements, c'est normalement. Bon, vous dites les autres, mais même, il y a des gens qui sont loin. Hein. Ils sont loin dans la coke et les euros. Alors, ils sont 24 sur 24. Les cerveaux, les jeunes, moi, j'aime bien qu'ils arrêtent ça. C'est de la merde.
Si je peux vous dire quelque chose, c'est que on ne sait jamais ce qui se trouve dans notre produit. Et pour les consommateurs de rue, je vous supplie, essayez de venir ici et tentez de voir comment c'est. Si ça vous va, c'est juste une expérience. Personne ne vous oblige de revenir. L'anonymat ici est respecté. Vous devez essayer de voir, parce que on sait jamais avec une consommation intraveineuse ou intraveineuse surtout que ça peut mal tourner, mais ils utilisent du bicarbonate ici qui est beaucoup mieux pour la santé que l'ammoniaque. Ils t'apprennent à comment l'utiliser.
Donc voilà, on est de retour pour nos derniers 12 minutes.
Oui, justement, donc, on a parlé de l'accompagnement.
Attends, c'est moi le boss pour 2 minutes. Marie,
oui.
Tu voulais passer vraiment un coup de gueule. Et je crois que ce coup de gueule, il te tient...
Oui, il me tient à cœur, parce qu'il n'y a toujours pas de Wi-Fi.
Fais-le, et après...
Il n'y a pas de réseau Wi-Fi au Gate.
Et je sais que c'est pas la faute de Gate, hein, voilà, mais
bah quand même, ils ont qu'à donner le code. Hein.
Oui, mais ça, j'ai demandé, mais on m'a expliqué qu'il fallait un autre réseau Wi-Fi pour les usagers, parce que dans leur réseau, voilà, il y a des données personnelles, point de vue au médecin, etc.
Vrai.
Donc quoi, c'est vrai.
Super, c'est super.
Voilà. Donc, mais ça n'empêche qu'il faudrait un réseau Wi-Fi pour les usagers, parce que franchement, ça, alors qu'il y en a partout, même en rue, même dans le métro, il y en a. Donc voilà, ça c'est vraiment. Oui, franchement, ça c'est un manquement.
C'est pour regarder le coordinateur.
Ouais, ce serait... mais oui, mais je le regarde.
Un jugeant.
Mais non, voilà, mais ce serait un point en plus.
Si Internet, il veut être encore plus collé là.
Après, c'est pas.
Après, je crois que c'est important parce que même quand tu dois faire quelques recherches et tout.
Mais oui.
Et même quand
tu. Ouais,
franchement, là, je vais être quand t'es défoncé, tu regardes des dessins animés, c'est trop nickel.
Il y avait aussi Marie, tu voulais parler de la nourriture.
Oui, la nourriture. Bah, un peu plus de variantes dans la nourriture proposée.
On arrête les gaufres.
Voilà, parce que stop aux gaufres, là. Les gaufres produits blancs.
Ah, moi,
10 pour 1 euro. Non, mais ça, la gaufre en elle-même ne dérange pas. Le problème, c'est que dans toutes les institutions, dans tous les services sociaux, c'est du café,
ils
du
sont
thé,
trop secs
très bien.
En plus.
Et c'est ces gaufres produits. Et franchement, alors parfois, ils font.
Il faut mettre un peu en micro-ondes.
Mais il faut pour ça, il faut un micro-ondes.
Et voilà, merci.
Donc, voilà.
Je sais pas, ils ont des mauvaises gaufres, mais bon matos, je sais pas.
Ouais, mais ça, mais non, tout à part, ça franchement. Pas de wifi, pas de gaufres, voilà. Mais sinon.
Mais on y travaille, nous sommes une jeune institution.
Mais tu vois, je sais.
On peut que s'améliorer.
Par contre, on a parlé beaucoup d'accompagnement, et moi je pense à un truc là. Celui qui m'accompagne le mieux, c'est mon chien.
Ouais.
Comment on fait avec son chien, son rat? Parce que bon, j'ai plein de potes
pour
des rats.
Des animaux.
Ouais.
Ouais, voilà, c'est poil par-ci, poil par-là.
Ah bah alors justement, on a suivi une super formation donnée par Lola de Dune.
Et en fait, tu veux faire ta pub.
C'est le moment pub.
Bah moi, je peux dire que Lola, elle est venue chez moi pour regarder le chien de mes beaux-parents aussi.
Ah ben bah voilà, donc appelez Lola.
Voilà, appelez Lola.
Mais en tout cas, pour les chiens, on y travaille. Et en fait, du coup, déjà, toute l'équipe a été sensibilisée par rapport à ça. Et en gros, pour l'instant, si les personnes veulent venir avec leurs chiens faire un comptoir, c'est possible. Par contre, si les personnes veulent venir consommer avec les chiens, on n'a pas encore traité l'information parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de flux ces derniers mois. Mmh. Et donc, en fait, on a été plutôt occupés à gérer cette gestion de flux. Et donc, on a reporté la discussion par rapport aux chiens et par rapport aux personnes qui voudraient venir consommer en étant accompagné de leur chien à septembre. Donc pour l'instant, les personnes qui veulent venir avec leur chien, c'est uniquement possible pour venir chercher du matériel. Et in fine, on espère qu'il y aura une discussion qui sera ouverte pour qu'au moins les chiens puissent rentrer dans le dispositif lorsque une personne fasse un soin, une consommation ou un accompagnement social.
Ben là, j'ai peut-être une question pour Nico, parce que vu que ça marche quand même bien... Est-ce que dans le futur, parce que là vous êtes vraiment centre-ville, mais il y a aussi des toxicomanes en dehors du centre-ville qui ne veulent pas se déplacer, est-ce qu'il y aura un jour, si les politiques veulent bien, une deuxième salle?
Oui, alors ici, avant d'avoir la deuxième salle, il y a déjà donc tout ce travail qui est fait en rue par nos éducateurs de rue, Simon et Anaël, qui vont justement à la rencontre des bénéficiaires qui fréquentent pas encore le dispositif et qui tentent, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, de faire des accompagnements jusqu'à l'intérieur. Et c'est clair que on a dimensionné cette salle pour que ce ne soit pas une méga grande salle, donc qu'elle soit à taille humaine, parce que on est partisan d'un maillage sur la région bruxelloise. Donc nous, on croit très fort en le fait qu'il puisse y avoir des solutions petites à taille humaine qui soient un petit peu partout, on va dire, sur la région, parce qu'effectivement, entre le moment où la personne achète et consomme son produit, elle ne va pas faire des kilomètres, elle ne va pas se déplacer une demi-heure. Et donc, on doit avoir cette proximité, donc ce qui veut dire qu'on doit avoir des antennes, voilà, différents endroits au niveau de la ville. Donc, ça, c'est des projets, on va dire, qui sont sur du moyen à long terme, qui demandent, voilà, toute une série de choses. Mais on a déjà des équipes mobiles qui, au quotidien, sont là pour essayer de mobiliser. Alors la force de Gate, c'est qu'au final, on peut mobiliser quelqu'un pour la consommation et dire, ben voilà, tu peux aller consommer là, mais on peut aussi dire, ben là, tu as la possibilité de voir un médecin, un infirmier, un assistant social. Ouais. Et il y a tout cette accroche-là qui est possible aussi.
Par rapport au travail qui se fait dans la rue, vous
Vous êtes sur les 19 communes de Bruxelles ?
Alors, la salle Gate, non. Maintenant, ah non, ouais. On a l'équipe Transitru qui, elle, se répartit donc les différentes communes et qui fait en binôme aussi des interventions sur voilà, une série de communes. Mais pour parler de Gate, nos éducateurs de rue sont dans un périmètre relativement proche, on va dire, de la salle. Parce qu'on veut justement capter le public qui est déjà présent dans le quartier. Mmh. Et on sait bien que ben, aller à l'autre bout de Scarbeck ou des Verts, ben, ça a peu de sens parce que les gens ne vont pas spécialement se déplacer. Donc nous, nos interventions, elles se font dans un rayon relativement proche, on va dire de peut-être 2-3 km autour de la salle. Et à ce moment-là, sur une semaine, ben, y a plusieurs sorties en maraude qui sont faites. Et alors, ben, on va capter quelqu'un aujourd'hui, on va lui donner rendez-vous demain. Et alors, on va essayer d'amener les personnes. Et de temps en temps, simplement le fait de distribuer un café, voilà, donner des informations, faire un petit soin, donner du matériel, ben, déjà rien que ça, ça aide à travailler ce lien qu'on veut de proximité vis-à-vis de notre dispositif.
Ouais, bah à quel moment, parce que bon, comme tu dis, elle n'est pas très très grande la salle, mais à quel moment on peut dire, oui, là on ne peut plus accepter les gens parce qu'il y a, voilà, c'est quoi la capacité en fait, où tu te dis, oui, là on ne peut plus.
Bah déjà 150 personnes par jour,
c'est, ouais, quand même énorme, c'est beaucoup quoi. C'est...
Ouais, donc aujourd'hui on a fait un peu plus de 130 passages, donc ça devient un petit peu notre moyenne. Maintenant ça se fait sur 7 heures. Maintenant si tu répartis ça sur 7 heures, ça fait toutes les 3 minutes quelqu'un qui vient sonner à la porte. Donc c'est vrai que c'est déjà énorme le travail qui y est fait. Maintenant les gens, c'est pas un centre où on reste, donc c'est un centre par lequel on passe. Et donc il y a des gens qui viennent se poser, et donc il y a ce flux qui fait que ben, les gens vont, viennent, et donc c'est pas 130 personnes qui sont là en même temps, ça se fait sur tout le long de la journée. Et donc il y a aussi, il va y avoir cet enjeu à un moment donné de la gestion de l'attente, et donc là on voit un petit peu, donc nous on est, comme on le disait, on est au début, et donc on apprend à s'articuler, comment gérer cette attente, comment essayer de gagner des quelques petites minutes pour faire en sorte que l'attente ne soit pas trop longue pour nos bénéficiaires, et donc voilà, on est vraiment là-dedans. Et donc le dispositif, il doit avoir un point de rupture, mais actuellement c'est difficile de savoir le quantifier, et pour l'instant on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc on est très content de l'augmentation de la fréquentation, on est très content parce qu'on voit que ça répond à un réel besoin et que ça met en avant voilà, vraiment un besoin qui était criant, mais au-delà de ça on espère aussi à un moment donné pouvoir arriver sur un palier, parce que l'idée c'est pas de faire trop de quantité au détriment de la qualité du suivi. Et comme on le disait, le dispositif pour l'instant il a la force de pouvoir faire du cas par cas, et on espère pouvoir garder cette capacité là.
Donc on vous mettrait quand même les horaires sur le site Facebook de Clip Radio. Ouais.
On mettra un maximum d'infos.
Ouais.
Mais justement, après un an, vous avez fait un bilan. Est-ce qu'il y a déjà des perspectives d'avenir, je sais pas, agrandissement, multiplication
ou... Ben donc les perspectives, c'est déjà de déployer complètement le dispositif. Donc là, on voit que on est sur une courbe croissante au niveau de la fréquentation. Donc on voit que ben il y a peut-être 6-7 mois, on avait une réalité de 60-70 passages par jour. Ici, on a déjà doublé. Donc on verra où on en sera dans 6 mois. Et au-delà de ça, donc il y a les services qui commencent à s'activer. On fait nos essais-erreurs, comme on dit souvent. Et alors, à un moment donné, ben, il faut qu'on puisse aussi staffer complètement, parce qu'on a du mal à recruter du personnel infirmier, et donc ce qui fait que pour avoir aussi une plage horaire qui s'étend, pas tant sur les journées mais sur la semaine, les ouvertures le samedi, in fine le dimanche, ben voilà, ça reste des perspectives. Mais dans un premier temps, on va déjà voir où le flux va nous amener, quelle sera notre vitesse de croisière, et à partir de là on va déjà essayer de faire un travail convenable que pour pouvoir rester dans un accueil de qualité au cas par cas pour nos bénéficiaires.
Et au niveau des horaires, vous avez aussi... je sais pas, moi je suis pas très matin.
Ouais. Alors, donc ça a été vraiment une discussion qu'il y a eu, parce que on voulait être très visible pour notre public, mais on voulait être invisible pour le quartier. Et donc, c'est clair qu'au début, les matinées, on avait 1-2 passages. On se demandait un petit peu quelle est la plus-value de ça. Un an plus tard, on se rend compte que c'est pas rare que sur une matinée, on fasse 30-40 passages. Donc, il y a quand même une demande. Donc, certains sont du matin, d'autres le seront pas. Ouais. Et donc, pour l'instant, on fait un 10-17. Et c'est clair qu'on pourrait tendre vers des accueils plus tardifs. Mais oui, de nouveau, il faudra poser la question de le flux de personnes qui fréquentent alors le dispositif vis-à-vis de notre capacité d'en accueillir autant. Donc on a trouvé un équilibre là-dedans.
Ben voilà, ben c'est la fin.
Non, en tout cas, moi je peux dire
de la part de mon boulot, j'adore quand même travailler avec vous parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous.
Merci, merci.
Voilà. Alors je vous laisse dire le mot de revoir.
Il y a pas un coup de gueule des travailleurs là.
Ben, vas-y. Allez, un coup de gueule.
Pas la direction trop lente.
Non.
Alors, on vous a attendu pendant 6 mois.
Hein, ouais, non, on a dû. Enfin voilà, ça prend du temps, mais maintenant on est là. C'est ça le principal.
Mmh.
Et on espère pouvoir revenir aussi pour donner encore plus d'informations et plus de nouveautés et pouvoir s'adapter.
Parce que bon, il y a quand même des manques. Vous n'êtes pas 100% adapté à tout le truc, quoi.
Bon,
je sais pas.
Paf.
On nous a parlé de. Non, je le mets encore en avant. Bah, par exemple, il y a pas de psy chez vous.
Ouais, bah, c'est pour
oui,
ça
oui, c'est sûr ouais. qu'il y a des choses qui manquent à la salle et puis au final même au niveau politique, c'est bien beau de faire une
30 secondes.
Une salle de consommation, mais 29. Il en faudrait beaucoup plus.
Voilà.
Et en tout cas, on voulait. Surtout nous, on a l'occasion de participer à un projet qui est super innovant et on est super content. Moi, je pars bientôt, du coup, je voulais juste remercier tout le monde et faire des bisous à tout le monde.
Les moments tristes de l'émission.
Une part à Marseille. Donc, ciao tout le monde, au mois prochain. Merci à vous. Franchement, Gait, merci de votre venue.
Merci.
Marie,
merci
surtout,
Marie.
Merci pour ton témoignage.
Avec plaisir.
Merci à Savas, Momo et Fabien pour leur interview.
Et merci, on vous met un max d'infos sur la page Facebook.
Hein, voilà, on donne toutes les infos sur Facebook. Ouais, merci à Raph.
Bisous, big up à tout le monde.
À Lola.
Lola. Ouais, tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Au revoir. Ciao.
Merci.
Bye, bye, bye.
Sur Radio Panique. Radio.